Semaine Sainte 2019, le MAG, Emmanuel Pella.
Il est des silences dans la vie insupportables, celui de la mort d'un être cher notamment. Aujourd'hui, sur toute la surface de la terre, pour les chrétiens, est le jour du grand silence, tout se tait. L'Église alors nous invite à contempler une femme éplorée, une mère, une maman, dont le fils a été tué, suprême douleur, dit-on. Mais une femme pas comme les autres, une femme du silence. Ce MAG donc en direct du couvent des Carmes à Toulouse, en ce samedi saint. Bienvenue à tous les auditeurs, particulièrement ceux qui ne sont pas familiers de cette antenne. On pense à ceux qui sont dans le Gard, dans la Mayenne ou dans le Pays Basque. Soyez tous les bienvenus et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un autre frère, frère Jean-Emmanuel de Hénin. Vous êtes prêtre religieux Carmes, ici dans ce couvent, et directeur de l'Institut Jean de la Croix. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Voilà une voix qui est familière de d'autres auditeurs. Cette voix, vous avez presque la même voix que notre monsieur cinéma à l'antenne, Louis-Marie Solaire.
C'est plutôt élogieux.
On va donc parler du silence, paradoxe s'il en est dans une radio, à la radio, en ce jour qui est donc le jour du grand silence. Vous vouliez peut-être commencer cette émission en nous lisant un extrait d'une méditation qui est proposée à toute l'Église. L'Église universelle, en ce jour du grand et du saint samedi.
Tout à fait. Donc, comme vous le savez, peut-être, il y a chaque jour un office de lecture, ce qu'on appelle un office de lecture, un office où on entend des textes, de la parole de Dieu assez longs que font les moines, les religieux, religieuses. Et celui d'aujourd'hui s'appelle une homélie ancienne pour le grand et saint samedi. Et il commence de cette manière, d'ailleurs nos auditeurs pourront l'entendre tout à l'heure à midi, à l'office de lecture, ici en direct, et que dit-elle ? Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. C'est cela aujourd'hui, alors après cette homélie bien sûr se poursuit, avec cette idée que aujourd'hui c'est un jour spécial, le samedi saint, parce que on est en attente, on est dans le silence d'attente, on est dans le silence du tombeau. On a mis Jésus au tombeau et rien ne semble se passer. En plus, c'est en lien avec le Shabbat. Comme vous le savez, chez les Juifs, le samedi, c'est le jour du repos. C'est le septième jour où Dieu a arrêté de travailler et il a sanctifié ce temps-là. Donc nous sommes dans le Shabbat, nous sommes dans le samedi, c'est-à-dire on dirait que plus rien ne se fait, que Dieu ne crée plus, que Dieu s'est tu, qu'il est en silence, qu'il se repose, et tout le monde se repose. Sauf que, ici, ce repos, il est tragique, parce que c'est le repos du tombeau, mais que va-t-il se passer ? On est là, on est dans cette attente dont on ne sait pas si l'issue va être heureuse ou au contraire désespérante ou si c'est la fin de tout. Voilà le grand samedi, le samedi saint, grand jour de silence, silence sur la terre aujourd'hui.
Et c'est comme ça aussi probablement que c'était le lendemain de la mort de Jésus puisque c'était aussi le jour du Shabbat.
Probablement.
Il est bon de le rappeler. Marie et les apôtres certainement ont fêté le Shabbat après.
Oui, eux, je pense que les disciples de Jésus, eux, étaient en silence, mais la ville était en ébullition puisque au contraire, c'était la grande fête de la Pâque. Donc, à Jérusalem, il y avait des sacrifices, des rituels. Donc, le peuple, à ce moment-là, devait être plutôt comme dans les grandes fêtes de pèlerinage, avec énormément de peuple. Et je pense qu'eux, par contraste, effectivement, ayant perdu le bien-aimé, le Messie, l'ayant vu souffrir aussi horriblement le vendredi, eh bien oui, ils ont dû passer une très mauvaise nuit, voire une nuit blanche, parce qu'ils étaient dans la détresse et dans une forme de désespoir bien réelle.
J'aimerais qu'on commence cette émission donc en parlant un petit peu plus du Carmel, ou en tout cas à travers le Carmel, en découvrant des trésors qui peuvent nous nourrir les uns les autres. Alors je voulais vous lancer sur le thème du silence. Je me suis dit que ça pouvait parler à un certain nombre d'auditeurs avec une citation donc du livre du cardinal Sarah, La force du silence, paru donc aux éditions Fayard, en tout cas en France en 2016. Le cardinal Sarah qui ne mâche pas ses mots parfois. J'ai relevé entre autres cette citation: dans nos sociétés consuméristes, l'homme ne cesse de parader comme un paon, mais il n'apporte aucun soin à son âme. Il exhibe une écorce et des vêtements rutilants qui s'usent et sont bons pour les mythes. Comment prenez-vous cette citation, j'allais dire acerbe, cette citation qui décrit un monde qui a peur du silence et qui se trompe de combat ?
Oui, je pense que ce que je retiens en tout cas, c'est effectivement le côté futile, le côté apparent, le côté trop joué sur l'apparence et pas assez sur le contenu, sur l'intériorité. Donc c'est vrai qu'au Carmel, c'est ce qu'on essaye de développer, c'est-à-dire une vie d'intériorité, écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Or, si on est tout le temps occupé, tout le temps en train de consommer, tout le temps en train de se distraire, tout le temps en train d'accumuler, on ne sait plus ce qu'on a à l'intérieur de soi et on n'écoute plus. Et c'est là que le silence a son importance. C'est-à-dire, est-ce que je vais accepter d'écouter ce qui se passe en moi? Mais pourquoi on en a peur? Parce qu'on a peur, justement, d'écouter le vide, de trouver le vide. Très concrètement, ici même au couvent, nous accueillons 6 personnes éloignées de la foi, pour qui ça a été tout un questionnement que de venir dans un couvent. Ils n'ont jamais fait ça, ils sont éloignés de la foi, et 3 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 jours sans activité
Et ils sont déstabilisés extérieure. Par le silence aussi?
Déstabilisés au sens positif du terme, c'est-à-dire ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils ont accepté de se mettre dans cette situation-là. Et donc, du coup, ils découvrent un autre monde auquel ils n'ont pas accès habituellement, parce que notre monde est effectivement très bruyant, très parasité.
Je me disais aussi qu'il était bon, pour ne pas trop caricaturer aussi tous ceux qui vivent dans ce monde, de parler de la solitude. Le 23 janvier dernier, c'était la 2e édition de la Journée des Solitudes. Je ne connaissais pas. En tout cas, c'est une réalité de plus en plus de Français. Beaucoup de Français vivent une solitude douloureuse. Dans un sondage donc, publié à cette occasion, je crois que ça devait être dans le journal La Croix, sondage BVA, la solitude est une expérience familière pour 6 Français sur 10. Alors, la solitude, il peut y avoir une solitude, on va dire, heureuse ou malheureuse, mais là, l'enquête laisse entendre qu'elle est difficile, est une expérience personnelle pour 4 Français sur 10, et surtout sur les jeunes. Les jeunes sont les plus touchés par le sentiment de solitude, 6 jeunes sur 10. J'ai vu des statistiques, entre autres, assez frappantes. Il y aurait 10% des jeunes, entre autres en France, qui n'auraient pas d'interaction quotidienne avec ni famille, amis, voisins, ou alors vraiment des gens du 3e, 4e cercle. Ça aussi, c'est une réalité. Quel commentaire ça vous inspire ?
Alors, je ne sais pas si c'est un commentaire, c'est surtout une expérience à laquelle je suis confronté régulièrement. C'est-à-dire que nos contemporains, on ne leur donne pas les moyens, et eux-mêmes ne se donnent pas les moyens, d'affronter une véritable solitude que chacun de nous doit affronter, qui est la solitude existentielle. Il y a un moment, je sais que je suis seul, personne ne peut vivre à ma place, je ne peux pas être seul dans mon île, et donc je dois passer par cette expérience et que je dois assumer comme être humain. Mais pour ça, il faut que j'ai des moyens, il faut que j'ai des fruits, des appuis. Il faut que je puisse affronter cette solitude. Il faut que cette solitude, elle soit remplie d'une présence intérieure, d'une présence à soi-même, d'une présence aux autres intérieures. Or, comme tout est fait, je ne caricature pas cette société. Ce que je veux dire, c'est que cette solitude intérieure est très dure et très difficile à accueillir. Donc, on la fuit. Et si on n'a pas des moyens spirituels intérieurs pour affronter cette solitude, on est renvoyé à une solitude qui isole beaucoup, beaucoup, beaucoup profondément. Donc ça, c'est la première chose que ça me suscite. Je vois bien beaucoup de jeunes qui ont énormément de relations au sens les réseaux sociaux, mais qui sont très sales. Le vois aussi chez des adultes.
Il faut un écosystème, entre guillemets, pour arriver à encaisser cette solitude existentielle,
vous diriez. Plus qu'un écosystème, il faut enseigner la solitude. Enseigner le fait que cette solitude, elle peut me permettre d'écouter des choses que je n'écoute pas habituellement. C'est-à-dire d'écouter mon intériorité. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que... Écoutez. Et puis, bien sûr, pour moi, en tant que carme, je pense que c'est aussi dans cette écoute intérieure que je vais entendre une autre voix, une voix intérieure qui va me conduire, qui va me dire « choisis le bien, évite le mal ». Mais si je l'étouffe, cette voix, je suis paniqué, ça m'angoisse, c'est extrêmement angoissant de ne pas entendre cette voix intérieure parce qu'on est perdu, on est complètement perdu, on est sans père et sans repère. Donc c'est cette solitude dont je pense beaucoup de nos contemporains ressentent, d'autant plus que les liens sociaux se perdent. Avant, il y avait quand même une vie de famille, une certaine vie de famille. Les familles sont quand même de plus en plus divisées, sont de plus en plus recomposées. Ça crée de l'angoisse. On dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, que chacun a suivi. Je ne sais pas l'expérience que j'ai quand on parle avec les gens concrètement. Ils ressentent beaucoup de solitude et de souffrance. Et cette souffrance, est-ce qu'on est prêt à l'habiter? Est-ce qu'on est prêt à l'entendre et à la traverser? Ou est-ce qu'on fait comme si? Est-ce qu'on fait comme si? Est-ce qu'on fait, on continue comme si de rien n'était? On s'abrutit. On est sur je ne sais pas combien d'écrans à la fois pour fuir cette solitude.
Le frère Maximilien Marie, dans l'émission du Jeudi Saint, nous a raconté très généreusement comment lui, au Carmel, pourtant on imagine qu'il avait fait en partie le choix du silence en choisissant cette vie, mais que dans les premières années de sa vie religieuse, il s'est rendu compte que ce silence était pesant pour lui, c'était difficile, et qu'il a fallu, au cœur même du Carmel, qu'il choisisse ce silence. Et il lui a été donné après de découvrir qu'en fait c'était un cadeau qui lui était fait et ça n'a pas été sans peine. J'ai lu quelque part en préparant l'émission que le silence aussi est toujours une conquête ou une bataille. Je ne sais pas si c'est dit dans votre règle de vie ou en tout cas je l'ai lu probablement sur le site internet du Carmel. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que le silence est une conquête et une bataille?
Oui. Alors moi, peut-être que je ne dirais pas le mot conquête, mais pourquoi pas, en tout cas, ce n'est pas un mot que j'utilise moi personnellement, mais moi j'utilise le terme, et qui pourrait aller aussi dans ce sens-là, d'un travail. C'est un travail, ça coûte le silence, ça a un prix. Il n'est pas spontané, il ne vient pas tout seul. Déjà, pour commencer par des choses très très pratiques, le silence, ça veut dire se taire. Donc il faut apprendre à se taire. Et se taire n'est pas du tout évident, même quand on se tait physiquement, c'est-à-dire qu'on ne parle pas avec la bouche. Mon Dieu, il y a tant d'autres voix intérieures qui se disputent, de distraction, d'imagination. Donc rien que ça, rien que apprendre à se taire est déjà un apprentissage. Et dans un monde où on n'arrête pas de parler, si on ne sait pas se taire, on ne sait pas ce que c'est le silence. On ne peut pas écouter ce silence. Ce silence, d'ailleurs, est souvent plutôt synonyme de vide, synonyme d'ennui. Donc il faut le remplir. C'est très significatif aujourd'hui. Vous rentrez dans une pièce, et les Américains font ça depuis longtemps, mais nous, on est en train de les imiter parce qu'on est dans la même société occidentale, matérialiste de ce point de vue-là. Ils rentrent dans une pièce, ils allument la télé. Ou la radio, pardon, pour la radio. Mais c'est insupportable de rester dans le silence.
Alors moi, je vous parlais plutôt du Carmel. On imagine que vous n'avez pas la télé dans votre chambre, quand même.
Non, pour moi...
Même alors, au Carmel, en quoi est-ce une bataille?
Alors, c'est une bataille parce que, en fait, donc, comme vous le savez, comme vous l'avez dit certainement dans d'autres émissions, nous, on a 2 heures d'oraison par jour prévues. Donc, 1 heure le matin, 1 heure le soir, 1 heure dans laquelle on est en silence dans la chapelle. Bon. Moi... Chacun de nous, on arrive à la chapelle avec ce que nous sommes, avec nos soucis, avec nos questionnements, avec on est bien, on n'est pas bien, on se sent bien, on ne se sent pas bien, on s'est levé de bon poil ou de mauvais poil, on est en pleine forme ou au contraire, on a eu une très mauvaise nuit. Enfin, on vient avec tout ça. Pour ma part, je suis enseignant, je viens avec le cours que je dois préparer, que je vais devoir donner, et puis est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas prêt, et puis je dois réfléchir à cela. Il y a une émission de radio que je dois faire avec Emmanuel, donc ça m'occupe.
J'imagine que ça vous a donné beaucoup de nuits blanches.
Non, pas du tout. Aucune nuit blanche, absolument pas. Mais par contre, ça peut habiter, et c'est tout à fait normal, mon oraison. C'est ça que je veux dire, puisque très concrètement, au Carmel, donc dans mon oraison du matin, oui, je vais, tout ça est là, est présent en moi.
Alors comment gagne-t-on cette bataille, en fait? Tout simplement, on se laisse faire après, ou est-ce qu'on
avant de se laisser faire, il faut le vouloir, il faut le décider, il faut le choisir, effectivement. Je veux vivre ce temps-là avec le Seigneur. Je veux accepter de rentrer en moi-même pour aller plus profond. C'est-à-dire, autrement dit, quitter la surface de moi-même, donc tout ce que je viens de dire là, tout ça s'agite à la surface, et faire de la plongée sous-marine. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est de la plongée. Et la plongée, ça se conquiert dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça suppose des conditions. Ça suppose d'avoir une bouteille d'oxygène. Ça suppose que je rentre en moi-même. Et donc, concrètement, pour nous, au Carmel, ça veut dire que je fais le choix de me mettre en présence du Seigneur. Donc, ça peut... Alors, après, il y a des moyens. Je vais, par exemple, pour ma part, je vais lire un verset de l'Évangile. Quand, surtout quand je suis très agité, quand ça ne va pas, quand c'est vraiment la mer et par temps de tempête, je vais... Bon. Et puis moi, je crois beaucoup aussi au corps. Donc, je commence par respirer. Bon, attends. Arrête. Ça suffit pas parce que après ça revient. Donc, mais il faut que je prenne le temps de ça. Donc, je me mets dans une position où je me sens bien. Voilà. Donc, déjà, ça crée du silence intérieur. Ça apaise à un certain niveau. Puis après, je prends souvent un verset de l'Évangile qui me parle, qui va m'aider à être là en présence. Et je vais essayer avec ce verset-là d'être en présence de Dieu. Et puis, il y a des moments où ça sera très calme. Il y a d'autres moments où c'est assez laborieux, mais ce n'est pas grave, je suis là, je suis en présence. Donc, ce n'est pas se laisser faire comme s'il n'y avait rien à faire, parce que se laisser faire est un vrai travail. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Donc, en ce sens-là, c'est une conquête, effectivement. C'est-à-dire qu'il me faut le vouloir, il me faut le choisir, il me faut combattre les pensées qui vont dans tout le sens, mais pas en me concentrant, mais en me mettant à l'écoute. Et c'est ça qui est difficile.
Frère Jean-Emmanuel Dena, c'est pareil, vos frères plusieurs fois ont expliqué que ont cité donc ce passage dans 1 Roi 17, je crois, où il est parlé donc du prophète Élie, donc votre fondateur d'une certaine manière, qui se cache dans une grotte et puis il y a des tremblements de terre, le feu tombe, etc. Et en fait, Dieu est, et vous m'avez donné un extrait, dans le bruissement d'un souffle ténu. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe en fait? Je pense que si les auditeurs ont suivi le Tridium, ils ont compris que Dieu parlait dans cette brise légère. Mais l'homme est-il fait pour la brise légère? Nos sens sont aiguisés. On imagine que Dieu ne nous a pas créés pour nous frustrer. Quelle logique y a-t-il à cette assaise?
Alors, je pense que nous sommes faits pour la musique. Nous avons tous une musique à trouver, une musique intérieure. Et cette musique, elle ne s'écoute pas dans la cacophonie. Et donc, je pense que toute notre vie, nous avons à affiner l'oreille. Nous avons à apprendre à écouter. Et donc, oui, nous sommes faits pour une voix silencieuse qui est au fond de notre être. Saint Jean de la Croix, reprenant cette même expression en bon langage poétique, va parler de la música callada. La musique silencieuse. Oui, c'est paradoxal. Oui, nous sommes paradoxaux. Nous sommes paradoxaux. C'est bien ce qui fait à la fois notre force, notre richesse, mais aussi notre souffrance. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des hommes de parole, des êtres de parole. Nous sommes doués de parole. Les animaux n'ont pas la parole. Donc, c'est extraordinaire. Ça nous permet de raisonner. Ça nous permet d'avoir une intelligence. Et en même temps, le fin mot de la parole... C'est un silence habité. Ce n'est pas le silence du vide, c'est pas le silence parce que j'ai rien à dire, c'est pas non plus le silence parce que je suis écrasé par la souffrance, ce qui est aussi un silence, qui existe réellement. Le prophète Élie dont on vient de parler, donc c'est 1 Roi 19, il est dans une situation désespérée. Il, après avoir fait des exploits, avoir triomphé, avoir connu le succès du prophète face au prophète de Baal, la reine Jézabel le persécute et dit « je vais te tuer », donc il a une menace de mort, et prend peur. Et il s'enfuit. Comme beaucoup de nos contemporains qui sont dans la peur, alors si c'est pas des menaces de mort de quelqu'un d'extérieur, ce qui est quand même pas le cas de tout le monde, même si ça arrive, mais qui d'entre nous n'est pas confronté à la mort, à la peur de la mort, au questionnement du sens de mon existence? Et donc il passe par ce moment de désespoir, il s'enfuit. Il s'enfuit au désert. Et il dit cette chose que tant de nos contemporains disent, « Je ne vaux pas mieux que mes pères, laisse-moi mourir. » Voilà. Ça s'appelle aujourd'hui, dans le langage contemporain, burn-out, dépression, échec professionnel, ça s'appelle chômage, ça s'appelle divorce, ça s'appelle addiction de toutes sortes. Enfin, c'est très concret, ce désespoir, il existe. On nous le cache, on ne veut pas en parler parce que ce n'est pas politiquement correct, parce que ça fait souffrir et qu'il ne faut pas parler de la souffrance. Tout va très bien, Madame la Marquise. Mais c'est faux. La réalité, c'est que chacun d'entre nous doit, à un moment ou à un autre, affronter son enfer. Et là, Élie, il n'en peut plus. Et il dit « Laisse-moi mourir ». Or, on lui dit « Laisse-moi mourir » et un petit ange le réveille, dit, il lui met une petite cruche à côté, un pain cuit, le pain chaud du boulanger, là, tout cuit, et lui dit « Mange, bois, sinon le chemin sera trop long pour toi ».
Et quel lien vous faites avec le silence avant qu'on fasse une première pause ?
Je fais le lien que parfois, il faut avoir connu le désespoir, il faut avoir connu les bruits intérieurs, il a fallu parfois connaître le vacarme intérieur pour savoir, pour aller chercher au fin fond du désert, au fin fond de l'enfer, le vrai et unique silence qui ne peut venir que de l'intérieur.
Ce samedi saint, donc ce mag en direct du couvent des Carmes, ici à Toulouse, où nous sommes donc avec le frère Jean-Emmanuel Dehenna, qui est prêtre religieux carme et donc directeur de l'Institut Jean de la Croix. Dans cette deuxième émission, même si c'est un chemin qu'on a déjà fait dans la première partie, j'aimerais avec vous donc qu'on creuse davantage le mystère qui nous est donné de contempler en ce jour, même si en fait il y a juste un silence à contempler, hein, ou une absence en ce jour, et c'est la grande particularité de ce jour, à l'image de ces tabernacles qui sont vides, et ce aux quatre coins du monde. J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu encore sur le mystère du mal. Alors il faudrait une série d'émissions pour en parler, mais nombre de nos contemporains, si ce n'est pas aussi les croyants et parfois même les plus aguerris, à un moment se heurtent justement à ce mystère du mal. Je le cite en introduction, la mort d'un proche, et on pense particulièrement aux mères qui ont pu perdre un enfant. Je me suis remis en tête quelques grandes citations qui sont connus. Il y a ce fameux cri d'Ivan dans les frères Karamazov qui doit être connu de beaucoup. Il y a cette grande figure aussi française, Albert Camus, hein, qui a dit sa difficulté à croire. J'ai noté aussi Julien Green, je ne veux pas me parler à moi-même et croire que c'est Dieu qui me parle. Julien Green qui était aussi très travaillé par le mystère du mal. Dieu, en ce samedi, paraît très silencieux. Et c'est probablement aussi comme ça que les apôtres ont vécu ce samedi. Vous disiez, la ville est en émoi, c'est le Shabbat, et eux, leur ami est mort.
Exactement, leur ami est mort, et tout espoir semble perdu. À vrai dire, le vrai silence, il est déjà sur la croix. Hein. Jésus lui-même qui crie vers son père, et apparemment, son père répond pas, se tait, le laisse mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Bien sûr, c'est le début d'un psaume, le psaume 22, et qui finit par de l'espoir. N'empêche que c'est quand même un cri d'abandon, se sentir abandonné. Donc, le Fils lui-même, le Fils de Dieu, expérimente l'abandon de son Père dans sa chair, en tant qu'être humain. Bien sûr, il n'est pas que vrai homme, il est aussi vrai Dieu, mais n'empêche que dans son humanité, c'est cela qu'il ressent. Et effectivement, les disciples se sentent abandonnés. par leur maître. Ils ont tout misé sur lui. Ils l'ont suivi. Ils ont tout lâché. Et n'en parlons pas, bien sûr, de Marie, la Vierge Marie, qui perd son enfant, qui pourtant, il y avait la promesse qu'il était le fils de David, qu'il était le Messie attendu par Israël depuis des siècles et des siècles. Et là, échec. Échec et mat, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire tout semble vraiment perdu. Le roi est mort. Échec et mat, je ne vais pas faire ce lien, mais avec le jeu d'échecs, on a vraiment l'impression que le roi est mort. Non, ce n'est pas d'ailleurs qu'une impression, il est mort. Donc la partie semble définitivement perdue.
C'était leur roi, en tout cas.
C'était leur roi.
Il était attendu comme un roi. Hein.
Voilà, exactement. Et puis toute l'ironie de la passion, vous l'avez entendu au long des émissions, mais le roi des Juifs, le roi des Juifs. Est-ce que tu es roi ? Avec tout le côté ironique, dénigrement, mais il est où votre Dieu ? Ben voilà, s'il est roi, ben il n'a qu'à sauver lui-même. C'est ça le tragique de ce silence. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression que Dieu a abandonné son peuple, qu'il a abandonné son fils. Donc comment voulez-vous que je croie à un tel Dieu qui ne répond pas ? Et c'est vraiment le samedi saint, dans la liturgie, ça va être aussi le moment où Jésus donc est au tombeau, hein, depuis le début de l'après-midi du vendredi. Il est au tombeau et que fait-il au tombeau ? C'est curieux comme question à se poser. Eh bien, dans notre credo, tous les dimanches, nous disons « il est descendu aux enfers ».
Donc sur Terre, rien ne se passe ?
Apparemment, rien ne se passe.
Mais déjà, ses profondeurs sont travaillées.
Voilà, ses profondeurs sont travaillées, c'est-à-dire même on peut dire qu'il va au centre de la Terre, hein, évidemment symboliquement parlant, hein, il va, puisqu'il est dans une grotte, hein, dans un tombeau, hein, donc creusé dans la roche, donc il est à l'intérieur de la Terre, dans les entrailles de la Terre, et il va visiter les entrailles de la Terre. Et que visite-t-il dans les entrailles de la Terre ? Il visite les enfers, c'est-à-dire le séjour des morts.
Il faut préciser que voilà, le séjour des morts,
Ce n'est pas l'enfer au sens strict, c'est-à-dire la condamnation.
C'était le lieu où se tenaient, on va dire, tous ceux qui avaient vécu et qui étaient morts.
Oui, mais même encore aujourd'hui, par certains côtés. Les enfers, c'est quoi ? Les enfers, c'est ce lieu loin de Dieu, mais qui n'est pas contraire à Dieu, mais qui est en attente. C'est-à-dire nos enfers à nous, hein, intérieurs, qu'il s'agit de visiter et qu'il s'agit de laisser le Christ venir aux enfers. Il est descendu aux enfers et qu'est-ce qu'il est allé chercher ? Il est allé chercher Adam et Ève. Je ne sais pas si les auditeurs peuvent visualiser cette icône où on voit Jésus qui tire la main d'un homme et d'une femme qui sont Adam et Ève et il les tire, c'est-à-dire le premier homme, la première femme, donc l'humanité, hein, il est allé chercher l'humanité perdue dans ses enfers pour les tirer de là, pour les élever. Mais ça, tout ça se passe dans le secret, se passe dans le silence, c'est-à-dire pour l'instant rien n'a éclaté, on n'a pas encore découvert le tombeau vide, pour l'instant le tombeau il est fermé, donc tout ça se fait dans le secret de la terre, dans le secret des entrailles. Et du coup, c'est ça aussi ce que nous visitons aujourd'hui, c'est dans le samedi saint, c'est Dieu qui vient visiter nos enfers. Pas l'enfer, mais nos enfers. C'est-à-dire tous les lieux perdus en nous, tous les ténèbres en nous. Et c'est pour ça que ce samedi saint est très particulier, parce que ce n'est pas les mêmes ténèbres qu'hier, au moment de la mort, où c'est la souffrance, la lamentation. Là, c'est plutôt l'accablement. Voilà.
Si vous permettez, juste avant que vous développiez cette idée, je pense aussi à ceux qui nous écoutent, qui par hasard soit douteraient, soit ne sont pas des chrétiens convaincus. Et du coup, je voudrais revenir un tout petit peu juste sur le mystère du mal, parce que c'est vrai que cette interrogation de l'homme contemporain face au mystère du mal et qui du coup n'arrive pas à croire en Dieu, on peut parfois certains chrétiens ou dans l'Église un peu la balayer, non pas la moquer, mais enfin s'en étonner. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin existentiel au contraire très très beau, très profond à respecter, et est-ce que Dieu quelque part ne travaille pas à travers cette question ? Est-ce que l'homme non croyant, on pense par exemple à un Albert Camus qui est interdit par le mystère du mal, qui n'arrive pas à sauter le pas de la foi, est-ce que quelque part mystérieusement Dieu ne le travaille pas lui aussi ?
Ah mais j'en suis convaincu. Je préfère un Albert Camus qui se pose des questions et qui est travaillé par la question du sens de l'existence que des gens qui même croyants qui s'apaisent trop vite en disant c'est pas grave, de toute façon il y a la résurrection, il y a qu'à, faut qu'on, vous savez, ça c'est des choses qu'on entend en permanence, mais ça on n'est pas travaillé. On n'est pas travaillé. C'est une question de vie et de mort. C'est une question existentielle. Et ce que nous sommes en train de travailler, c'est effectivement, est-ce que j'accepte de regarder l'absurde en face? Est-ce que j'accepte de me poser la question de la souffrance? Est-ce que cette souffrance, elle est habitée ou elle est mise de côté? Et ce n'est pas, c'est là où il y a une question juste quand on parle d'opium, l'opium du peuple. Ça pourrait être un opium si effectivement on veut pas regarder la question de la souffrance. Alors que justement, le mystère chrétien, c'est au contraire, c'est de dire la souffrance existe, le mal existe, la mort existe. Elle est réelle. C'est pas un fruit de l'imagination. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que je veux regarder la mort en face pour la traverser. Mais est-ce qu'il y a un espoir après la mort? Est-ce que je peux rentrer dans le tombeau et en sortir? Je peux nier qu'il y a des tombeaux. Ou je peux au contraire reconnaître que je suis un mortel et qu'un jour je vais mourir. Et la question qui se pose à moi, et que se sont posées des tas de philosophes, des tas d'hommes et de femmes de bonne volonté, c'est quel est le sens de mon existence? Quel est le sens de mon existence? Et moi croyant, nous croyants, c'est vrai qu'à un moment donné, on a une rencontre avec quelqu'un qui lui-même a expérimenté la mort, qui lui-même a expérimenté la souffrance, qui a pris au sérieux l'existence, qui s'appelle Jésus. Et qui n'a pas nié que la mort existe, que le mal existe, qu'il a pris à bras le corps, et c'est vraiment au sens littéral du terme, dans son corps, il a pris à bras le corps la mort et la souffrance, et il a traversé ce seuil infranchissable, et il est revenu vivant. Donc du coup, il m'ouvre une possibilité. Et vous citez Albert Camus, je pourrais moi aussi citer Edith Stein, cette philosophe de famille juive, d'origine juive, qui est plutôt dans le courant phénoménologique, avec disciple d'Heidegger, la première femme philosophe, docteur en philosophie, qui était taraudée par le sens de l'existence, qui a cherché, qui a failli désespérer, les maritains aussi, en France. Vous savez, il y a quand même beaucoup de gens, en particulier des convertis, qui sont des gens qui ont payé le prix pour devenir croyants, au sens de qu'ils ont cherché, qui se sont vraiment posé des questions. Et puis donc pour Edith Stein, eh bien, à un moment donné, justement face à la mort, elle découvre qu'il y en a qui ont une espérance, donc déjà ça l'interpelle. Et puis en lisant Thérèse d'Avila, elle se dit, là, il y a quelque chose de vrai. Ce que je cherchais finalement partout se trouve là. Et pour ma part, j'ai la chance de rencontrer des personnes aujourd'hui, là, maintenant, au moment où je vous parle, des gens qui ont fait ce chemin de l'absurde, du questionnement, des chemins de traverse, et qui, à un moment donné, ont eu la grâce de faire la rencontre avec le vivant, la rencontre avec le Christ, et que ça a bouleversé leur vie. Alors, pour certains, ça a été progressif. C'était un questionnement progressif. Pour d'autres, au contraire, ça a été très brusque, au fond du désespoir, au fond des enfers, puisque je n'oublie pas ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire au samedi saint, c'est-à-dire au cœur de leur tombeau, de leur sentiment de mort, de leur pulsion de mort, ils ont rencontré la vie qui les a fait ressusciter.
J'aimerais que vous nous parliez, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, et que dans la troisième partie, vous parliez à la première personne, comme s'ils sont essayés deux de vos frères, et avec succès, que vous nous parliez aussi du cheminement dans la vie spirituelle. Là aussi, ça mériterait bien des émissions, mais il est dit, particulièrement peut-être dans la tradition carmélitaine, que après les débuts de la vie de prière, qui parfois sont faciles et voire délicieux, vient ce qu'on appelle la nuit des sens. Donc ça, je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, il n'y a plus de consolation, c'est aride. On se tient sur son rocher, au cœur du désert. Vient ensuite la nuit de l'intelligence. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la nuit de la foi, la nuit obscure. Alors, ce que je voulais, à travers ça, que vous nous expliquiez, c'est la manière dont Dieu travaille l'homme. Est-ce que le plan de Dieu, quelque part, c'est vous citiez ce chemin des non-croyants qui, à un moment, reçoivent cette grâce d'illumination, d'impression au cœur de leurs enfers. Même quand on est carme ou quand on est chrétien, à un moment, Dieu nous conduit sur ce chemin. C'est ça aussi, cette nuit obscure?
Absolument. On pourrait l'expliquer de beaucoup de manières, mais si je ne veux pas que nos auditeurs trouvent ça trop abstrait et compliqué, Thérèse d'Avila utilise l'image de la chrysalide. Il faut que le ver à soie s'enferme dans un cocon pour qu'il puisse renaître papillon. Autrement dit, on a tous une mutation à vivre intérieure, une transformation de mon être. Donc il faut que je meure a une certaine manière d'être, a une certaine manière de vivre pour moi, centré sur moi, pour petit à petit naître à une autre vie qui est la vie de Dieu en moi et qui est la vie en plénitude. Donc ça, ça suppose... alors, dans mon langage à moi...
Reformatage, vous dites.
Voilà, reformatage
pourtant,
du disque
vous avez pas
dur.
De, oui, vous n'avez pas d'ordi portable avec vous. Hein,
c'est... Ah non, mais je l'utilise tous les jours parce que ah, je ne suis peut-être pas un geek, mais je suis quand même hyper connecté, comme on me le fait remarquer de temps en temps.
Bref, à chaque
dans
époque,
tous les
images.
Sens du terme. Dans tous les sens du terme, hyper connecté, voilà, c'est, ça peut être aussi spirituel. Oui, le reformatage du disque dur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire le système d'exploitation, des mises à jour, ça tient, plus ou moins, mais ça commence à bugger de plus en plus, la machine se ralentit, c'est ça la nuit obscure. La nuit obscure, c'est qu'à un moment donné, tout se ralentit, ça ne marche plus comme avant, ça ne fonctionne plus, sur quoi on s'était fondé, par exemple, je ne sais pas moi, une vie bien concrète, une vie bien réglée, bon, tout à coup, ça ne marche plus. Ça marche plus. Ce qui me plaisait avant me plaît plus. Ça devient très difficile. Et là, il va arriver un moment où je vais comprendre, où le Seigneur va me faire comprendre, qu'il faut passer au reformatage du disque dur. Et le reformatage du disque dur, c'est la panique. C'est la panique parce que j'ai peur de perdre toutes mes données. J'ai peur que tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, tout à coup, disparaisse. Et donc, ça suppose, de la part du croyant, une confiance absolue dans l'ingénieur informaticien, dans le fait de donner son disque dur à quelqu'un. Il faut avoir confiance que les données ne vont pas être effacées, que les données essentielles vont être sauvegardées et qu'on va pouvoir les remettre, et qu'elles vont pouvoir... Et ça, c'est très, très dur. C'est très dur.
Mais qu'est-ce qui se joue fondamentalement, en fait ?
C'est très simple.
C'est que la part de Dieu en nous prend le pas sur la part de l'homme, quelque part ?
Oui, non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment... Ce qui se joue, c'est renouveler votre manière de penser. C'est-à-dire que je passe de ma manière de penser purement humaine, purement horizontale, moi, autre langage que j'utilise en 2D, et je passe au 3D. C'est-à-dire que ce n'est plus... Je renouvelle ma manière de penser. Petit à petit, j'accepte de rentrer dans la pensée de Dieu, dans l'intelligence de Dieu qui se transmet à moi par la foi, l'espérance et la charité. Donc, c'est ça qui va faire que la personne qui accepte de passer par ce reformatage du disque dur, il va avoir une foi à déplacer les montagnes. Il va avoir une espérance contre toute espérance. Même quand tout semble désespéré, il garde l'espérance. Et puis, bien sûr, la charité, l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un amour total, un amour libre, un amour qui ne dépend pas des intérêts particuliers ou de la sensibilité du moment. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, autrement dit, encore avec un autre langage, plus chrétien, si vous voulez, devenir d'autres Christ. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, moi, justement, je n'oppose pas la part de l'homme avec la part de Dieu. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, c'est bien l'humain qui est divinisé. Et donc, humanisé. Je suis encore plus humain que je ne l'étais avant. Parce que comme le disait Bernard Bro, un prédicateur dominicain, un titre que j'aime beaucoup, beaucoup, dont je me sers très souvent, « Dieu seul est humain ». Alors ça, évidemment, ça nous bouscule. Dieu seul est humain, c'est-à-dire qu'il sait que nous sommes faits pour la vie et il veut que nous vivions. Et donc, il veut vaincre la mort en nous, il veut vaincre nos enfers. À chacun de découvrir ce chemin en ce samedi saint.
Tout Oh,
Ce MAG, donc, en direct, toujours du couvent des Carmes, pour ceux qui nous rejoindraient, donc, où nous avons planté notre tente en ce Tridium Pascal. Nous sommes aujourd'hui, pour ce samedi saint, donc, avec le frère Jean-Emmanuel de Hena, qui est prêtre Carme, donc religieux Carme de cette communauté, et directeur de l'Institut Jean de la Croix. À la fin de cette émission, très généreusement, vous avez accepté donc, de parler un peu à la première personne. Je vous en remercie parce que je me dis que ça peut. Voilà, les Carmes sont réputés pour être particulièrement pudiques. En tout cas, c'est ce qu'on dit parfois de votre spiritualité et puis c'est ce à quoi vous invite votre règle. Mais c'est aussi quand voilà, les témoignages sont rares qu'ils sont précieux et je pense que nombre d'auditeurs en ont été touchés dans les précédentes émissions. Vous vouliez nous partager quelque part un petit samedi saint que vous avez vécu dans votre vie. Donc vous êtes religieux Carme depuis 1985, m'avez-vous dit. Vous aviez été prieur pendant de nombreuses années à Fribourg, à Toulouse, et vous aviez prévu de vivre une année sabbatique, semble-t-il, vos supérieurs avaient accepté, et il s'en est passé tout autrement. Alors recontextualiser pour commencer et préciser mon propos.
Oui, donc effectivement, voilà, ça fait de nombreuses années que je suis donc Carme. Donc effectivement, j'ai fait pendant 9 ans, j'ai été prieur, donc 6 ans à Fribourg et 3 ans à Toulouse. Toulouse est une communauté importante, avec tout ce que cela suppose d'engagement. Et donc, j'arrivais un peu à la fin d'un cycle.
En 2011.
Nous sommes en 2011, exactement. En 2011, et donc, avec mes supérieurs, en faisant un peu le bilan, ça semble raisonnable. D'ailleurs, notre règle, notre constitution nous y invite à ne pas rester trop longtemps dans les charges, dans les responsabilités. Et donc, nous convenons ensemble avec les supérieurs que ça serait bien que je fasse une année sabbatique. Et dans mon langage à moi, c'était un recyclage. Donc, je voulais faire 6 mois de recyclage intellectuel et 6 mois de recyclage spirituel. Donc, j'avais prévu mon truc, le recyclage spirituel, intellectuel, puisque donc, je suis professeur en Bible, c'était de partir 6 mois à Jérusalem, à l'école biblique. Et puis 6 mois de recyclage spirituel, c'était le Saint-Désert, un couvent que nous avons sur la Côte d'Azur, magnifique, très beau, où c'est la vie contemplative,
l'ermitage,
la vie de prière.
Presque.
En ermitage, non, ermitage. Pas presque, ce sont ermitage. Des ermitages en fait, chacun un ermitage, et puis une vie, il n'y a pas de récréation à midi, il n'y a que le dimanche, enfin voilà, une vie de silence, pour lire, pour prier, pour reposer spirituellement. Et c'est tout, tout était bon. On finit le moment de ce qu'on appelle le chapitre provincial, la grande réunion. Je reviens au couvent de Toulouse soulagé parce que je n'avais plus de charge. Je reviens. Et puis, le samedi soir, à 10h30, je m'en souviendrai toute ma vie, le téléphone sonne directement sur mon téléphone. Et j'entends la voix de mon provincial, donc mon supérieur, qui dit « Est-ce que tu es assis ?» Non, mais je vais m'asseoir. Évidemment, quand ça commence comme ça...
On trouve une chaise.
On s'accroche. Évidemment, on avait parlé d'une année sabbatique, mais voilà. Est-ce que tu accepterais de partir sous prière, donc second, au Sénégal, dans notre mission au Sénégal, à Kaolack? Parce que c'est un jeune prieur qui est là et qu'avec ton expérience, tu pourras le seconder. Enfin bon, bien sûr, il fallait quand même aussi dire pourquoi on demandait cela. Tu as le temps de réfléchir. Donc, on était samedi soir. Hein. Il faut juste que tu me donnes la réponse lundi matin à 8h, 9h. Ah, alors là, c'était le samedi saint, oui. Dans le sens que...
Pourquoi c'était le samedi saint ? On peut juste dire que vous étiez fatigué et vous vouliez faire un break.
C'était complètement contraire au rythme dans lequel je me trouvais. C'était complètement contraire au moment spirituel et humain que je vivais, qui nécessitait au contraire pas de rajouter des activités ou de se réinvestir dans une nouvelle activité, mais au contraire de ralentir, de faire le point, de faire le bilan. Voilà. Donc là, tout à coup, non seulement ce n'était pas avoir le temps de faire le bilan, mais c'était même repartir sur une nouvelle mission extrêmement prenante, qui est la mission en Afrique. Moi, je n'avais jamais vécu en Afrique, donc ça veut dire connaître un monde, un tout autre monde. Moi, en soi, l'Afrique m'attirait. En d'autres circonstances, je dirais, j'aurais pas eu de problème. D'ailleurs, même après mon année sabbatique, ça aurait été parfait. Après mon année sabbatique, bon, bah, voilà.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti, en fait?
Alors, j'ai ressenti la mort.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que pour moi, c'était mourir à ma volonté propre. J'ai ressenti Gethsemane, on vient de le vivre, c'est-à-dire que très concrètement, c'était « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est ça que j'ai eu à vivre. C'est-à-dire que moi, j'étais là et je devais me poser la question de savoir... Parce que, évidemment... On a quand même l'habitude de faire des discernements. Donc, si ma conscience m'avait dit « non, tu ne dois pas y aller », c'est-à-dire si c'était contraire à ma conscience, j'aurais dit « non ». Si en conscience, je ne pouvais pas dire « oui », j'aurais dit « ben voilà, je ne peux pas, c'est pas possible ». Mais là, j'étais à un autre... Enfin, je l'ai vécu, en tout cas, comme à un autre niveau, c'est-à-dire que là, Dieu me proposait de renoncer à ma volonté propre pour faire sa volonté à lui. C'était d'autant plus fort que le dimanche, donc entre le samedi soir et le lundi matin, le dimanche, il y avait une profession solennelle chez les carmélites de Muret, ici proche de Toulouse. Donc une sœur qui faisait ses engagements définitifs, donc ses vœux définitifs de pauvreté, chasteté et obéissance, comme nous faisons tous les religieux. Et évidemment, ça me renvoyait à mes propres vœux quand je me suis engagé définitivement à la suite du Christ. Pour moi, c'était évidemment... un immense écho de est-ce que je vais accepter les conséquences de ces vœux concrètes, des conséquences concrètes, c'est-à-dire renoncer à ma volonté propre pour partir ailleurs, me réinvestir autrement. Et donc, moi, je l'ai vécu comme cela, de cette manière très particulière.
Comment discerne-t-on, si je me permets, comment discerne-t-on, parce que le mot est fort, hein, quand même, quand je vous pose la question, vous dites, c'était la mort.
Oui.
Comment discerne-t-on que, enfin, pareille circonstance, que la volonté de Dieu, là, en l'occurrence, n'est pas mortifère, mais qu'il peut y avoir un bien là-dedans? C'est juste parce que votre conscience ne vous dit pas stop?
Si on le savait à l'avance.
C'est juste que votre conscience ne vous dit pas stop à cette avance?
C'est pas seulement ça, c'est que c'est propre à chacun. C'est propre à chacun.
Mais là, on parle de
temps,
vous.
Oui, mais moi, je parle que pour moi, c'était ça. À ce moment-là, comment je l'ai discerné? En priant, en me mettant face à Dieu, en priant la nuit, en demandant à la parole de Dieu de m'éclairer. Voilà, c'est tout. J'ai pas eu de révélation divine qui tombe du ciel avec une voix. J'ai pas eu non plus, comme Jésus, un ange qui vienne le consoler à Gethsemane, comme on a eu dans l'évangile de Luc. Mais concrètement, ça se discerne comme ça. Ça se discerne aussi par amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à faire par amour? Jusqu'où va mon amour? Est-ce que mon amour, il est en acte ou c'est du blablabla? Et c'est bien gentil, où on demande aux autres de se sacrifier, mais que soi-même, quand ça arrive son tour, on dit « je passe la patate chaude à quelqu'un d'autre ». Donc voilà, chacun... Moi, c'était ça. C'était ce que j'avais à vivre à ce moment-là. J'ai quand même mis 9 mois à m'en remettre. Et c'est très intéressant, 9 mois. Parce que 9 mois, c'est le temps d'une nouvelle vie, un nouvel enfantement. Et c'est comme cela que je l'ai vécu, avec la Vierge Marie.
Alors justement, j'aimerais qu'on finisse cette émission avec la Vierge Marie, parce que vous vouliez en parler. Et évidemment, ce jour, on ne lui a pas fait beaucoup de place lors de cette émission. À vous entendre, vous disiez, Marie, on a plein de manières de la contempler. On peut la contempler le samedi saint, quand probablement, elle ne comprenait pas aussi ce qui se passait complètement. Voilà, elle restait une femme. Mais Marie, c'est la paix au cœur du grand silence. Je me suis noté ça. Est-ce que ça correspondrait à ce que vous diriez ou pas?
Non, pas du tout. Excusez-moi. Non, pas du tout. Non, je pense que ce qu'elle vit, c'est cette épée de douleur qui la traverse au pied de la croix dont lui avait parlé le vieillard Siméon. Hein, un glaive te transpercera le cœur. Donc, non, je ne dirais pas la paix. Je dirais au contraire, c'est celle qui est traversée par la douleur, totalement traversée par la douleur, et qui, au cœur même de cette douleur, garde l'espérance. Donc, c'est ça la Vierge Marie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme Gethsémani pour Jésus, comme tout chrétien à un moment donné doit vivre, elle pose un acte de foi. Elle espère contre toute espérance. C'est-à-dire que ça va au-delà de ses forces humaines. Là, il faut que ce soit la force divine qui la soutienne. Si ce n'est pas Dieu qui la soutient à ce moment-là, c'est invivable. C'est invivable. Un peu comme le prophète Élie dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'il soit réveillé par un ange pour lui dire « va ». Et c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il a traversé tout le désert, que là, il a une révélation de la voix silencieuse. Et donc, c'est à travers tout cela qu'il va entendre une voix silencieuse. Et Marie, et c'est comme cela que je la contemple, c'est la femme qui retient tous ces événements dans son cœur, qui n'a pas, c'est pas avec son intelligence, c'est avec son cœur de mère profond qu'elle retient tout cela, qu'elle est traversée par tous ces événements, qu'elle les enfante et du coup nous enfante aussi. « Voici ta mère, » dit Jésus, hein, aux disciples bien-aimés au pied de la croix. Voilà, la mère des douleurs devient la mère des douleurs d'enfantement. C'est celle qui, au pied de la croix, réenfante, comme elle a enfanté son fils, réenfante chacun d'entre nous pour que nous soyons à l'image de son fils. Mais ce n'est pas malgré les douleurs, c'est à travers les douleurs qu'un enfantement est possible. Donc elle garde la foi, elle garde l'espérance en ce samedi saint. Et en ce sens-là, elle le Shabbat, c'est la femme juive. La femme juive, moi je suis évidemment très sensible au peuple juif, c'est la femme juive qui au milieu des épreuves garde l'espérance, qui est le pilier de sa maison et qui va aller jusqu'au bout dans l'attente du Messie.
Ben merci beaucoup frère Jean-Emmanuel de Hénin de nous avoir accompagnés en ce samedi saint. Rendez-vous est donné à 12h aux auditeurs pour l'office des lectures. Un grand merci à vous et bon samedi saint à tous les auditeurs.
Merci Emmanuel.